18h06, allons jeter un coup d'œil au Salon de l'Auto de Détroit où est notre collègue Benoît Charrette qui est de l'annuel de l'automobile. Il est sur place. Vous pouvez le suivre sur sa page Facebook, entre autres, avec toutes sortes de nouvelles en direct de là, des présentations de véhicules également. Salut Benoît.
Salut Mathieu.
Benoît, je voyais entre autres dans les présentations, est-ce que j'ai rêvé ou on a fait ressortir des poussières la Supra?
Écoute, on parle plus de ressortir de poussière. Ça fait au bas mot 5 ans qu'on entend parler de la prochaine Supra. En fait, j'arrive d'une réunion avec l'ingénieur responsable du modèle et lui nous disait que ça fait 7 ans qu'ils sont à travailler le nouveau modèle. Ils ont signé une collaboration il y a 6 ans avec BMW et le modèle Supra est hautement basé sur la BMW Z4. Qui va arriver sur le marché. Les deux vont arriver d'ici l'été sur le marché. Les voitures sont fabriquées à la même usine en Autriche. Usine Magna Steyr, qui est une usine de M. Stronach, un Canadien, oui. Qui est aussi autrichien là, d'origine, mais on fabrique la voiture là-bas. Donc, ça sera effectivement une voiture qui va se vendre. On a le prix américain, 50 000. On n'a pas le prix canadien, mais figuré probablement autour de 60 000 et plus selon les options. Et c'est un moteur BMW 6 cylindres en ligne, 3 litres turbo, qui fait 335 chevaux. On sait que la Z4, il y aura 382 chevaux. Donc, ça laisse la porte ouverte peut-être à une éventuelle Supra un peu plus puissante. Mais le modèle est très beau. Je pense qu'on a réussi quelque chose de bien. Puis, on va se remettre dans un marché de niche, parce qu'on s'entend là, que les modèles 2 places sport, c'est pas des gros vendeurs. Mais en partageant les coûts avec BMW, ben on va arriver à rentabiliser le produit, même si les ventes sont pas astronomiques.
C'est un véhicule qui se vendait bien. Est-ce qu'il était bien coté quand même à l'époque?
Il était très bien coté. C'est que le milieu puis la fin des années 90, ça a sonné le glas de plusieurs modèles sport parce que, justement, on était dans une économie un peu plus difficile.
Oui.
Puis évidemment, quand l'économie est plus difficile, on coupe dans le luxe en premier. On s'entend qu'une voiture sport 2 places, peu importe le prix, c'est toujours un luxe, parce que généralement, c'est une deuxième voiture. On a une première voiture pour la famille. Là, ben l'économie va un peu mieux, puis on arrive justement à réduire les coûts de ces modèles-là en s'associant avec d'autres compagnies, en travaillant en alliance sur des plans, des sous-bassements ou des châssis communs. Puis ça fait en sorte qu'on arrive, même si on ne vend pas autant de modèles, à rentabiliser le produit et à le garder sur le marché.
Dis-moi, puis tant qu'être dans le volet nostalgique de l'affaire, là, c'est Ford qui a représenté la Mustang Shelby.
Oui, Mustang Shelby GT500, en fait, qui est le modèle, là, le très haut de gamme de la Mustang. On a pris le moteur à la base qu'on a dans le GT350, donc moteur 5,2 litres V8, et on a ajouté un compresseur. On a annoncé du côté de Ford plus de 700 chevaux. On n'a pas dit combien exactement, mais par le plus grand hasard, les L4 du côté de chez Dodge ont 707 chevaux. Alors, je peux te gager un petit 2, Mathieu, quand le modèle va sortir officiel avec le chiffre de puissance connu, ça va être au-dessus de 707, je suis à peu près certain.
Donc, est-ce qu'ils vont nous sortir les Ford Bronco à nouveau pour l'an prochain, peut-être? Tant qu'il y a de la nostalgie.
Le Bronco s'en vient. Officiellement, on devait le présenter du côté de Détroit cette année. On a présenté un modèle Explorer renouvelé pour 2020 et la Mustang. Alors, est-ce qu'on va attendre du côté de New York ou un peu plus tard dans l'année pour avoir un nouveau modèle de Bronco? Mais le Bronco avait été annoncé il y a 2 ans pour 2020. On avait annoncé le Ranger en 2019 qui vient d'arriver. Et on avait annoncé le Bronco pour 2020. On attend encore une commercialisation là, officielle.
Avant d'aller sur les nouvelles présentations, parle-nous de l'importance de Détroit. Ça a été jadis le vaisseau mère des salons de l'auto. Oui. C'était la plaque là, importante.
Oh oui,
c'est quoi sa place? C'est encore ça?
Non, c'est plus ça. Là. Écoute, cette année, ça serait plus court de faire la liste des constructeurs présents que ceux qui sont absents.
Okay.
Il n'y a pas d'Allemands sur le plancher à part Volkswagen. Porsche, BMW, Audi, Mercedes sont pas là. Il n'y a pas de voiture exotique. Écoute, il y a des grands trous vides sur le plancher de présentation. Il y avait la journée de presse. En fait, on peut même pas appeler ça une journée de presse. Il y avait la première présentation pour les journalistes était à 9h moins le quart et la dernière était à 2h. Alors, c'est tout ce qu'on a eu. Moi, je suis venu ici il y a 25 ans où on avait 3 jours de presse complets, les prototypes et les concepts le dimanche, puis 2 jours pleins de présentations de constructeurs. Alors, on n'est pas là. On déménage l'été à partir de l'an prochain parce que ce salon-là a perdu de sa superbe et s'est fait faucher l'herbe sous le pied par des salons comme le CES, le Consumer Electronics Show du côté de Las Vegas. Et même Los Angeles, qui a reculé ses dates depuis quelques années en novembre, est allé chercher des modèles qu'on enlève aussi du côté de Détroit. Donc, on va revamper le salon dans une espèce de foire automobile estivale. J'ai hâte de voir. C'est sûr que ça n'aura plus l'importance que ça a. Puis, il faut dire aussi que du côté des constructeurs, on a compris au fil des ans qu'on est mieux de diluer ses produits dans quelques salons durant l'année aux États-Unis pour avoir une meilleure couverture médiatique que de tout mettre ses œufs dans le même panier comme on le fait longtemps avec Détroit. Donc, il y a des présentations à Chicago en février, des présentations en avril du côté de New York, des présentations du côté de Los Angeles en novembre. Donc, Détroit avait vu aussi son produit dilué à cause de ça. Et là, avec le CES, ça a été comme la goutte qui a fait déborder le vase.
Dis-moi, bon, point de vue présentation, on faisait référence, c'est encore les pick-up, les véhicules utilitaires sport, camionnettes, là, qui sont très, très populaires.
Oh oui, en fait, aujourd'hui, on a eu le nouveau Ram HD, donc le Heavy Duty, qui a été présenté avec bon le moteur diesel qui a atteint 1000 livres pieds de couple. Là, c'est un nouveau sommet dans cette catégorie-là. L'Explorer, on le disait, du côté de Ford, un autre utilitaire. Le XT6 chez Cadillac, un autre utilitaire. Le Telluride, qui est le gros utilitaire de Kia, qui va venir se placer au-dessus du Sorento. Le Supra, bon, c'est une des voitures qui est très présentée. La Passat, du côté de Volkswagen, la nouvelle Passat qui a été présentée aussi. Il y a eu des concepts électriques du côté de Nissan et d'Infiniti. Le QX qui était le modèle chez Infiniti. Infiniti a même confirmé qu'on allait d'ici 2021, tous les modèles allaient être ou branchables ou 100% électriques. Donc, 2021, là, c'est demain matin. Là. Donc, on travaille déjà à ce concept-là du côté d'Infiniti. Mais il n'y a pas eu beaucoup de modèles verts de production qui ont été présentés. Là. Ça a été des modèles très, très col bleu, très, très américains, ce que les gens aiment encore acheter. Là.
Parce que ça se vend, en plus, aux États-Unis. On a les chiffres ici au Canada, mais aux États-Unis, c'est ce qui se vend encore de loin le plus. Là.
Absolument. Là. Tu sais, le Québec vit un peu en vase clos dans la mesure où les gens veulent acheter électrique, sont conscientisés du véhicule électrique. Mais aux États-Unis, on n'est pas au même endroit. Là. Le véhicule électrique, pour beaucoup d'Américains, là, c'est encore une curiosité. Ouais. C'est encore quelque chose qu'on va voir dans 20 ans, mais on n'est pas prêt à acheter électrique du côté américain. Là, c'est assez évident.
Et en plus, les coûts de l'énergie aux États-Unis, quand tu regardes le coût de l'essence au litre, oui. T'es encore aux alentours de 55 à 65 cents le litre.
Exact. Oui, oh, ça varie.
Tu regardes les coûts de l'électricité, là, c'est autre chose aussi, là.
Ah oui, ben l'hydroélectricité, en fait, il n'y a pas d'hydroélectricité ou très peu aux États-Unis. On parle d'électricité produite au charbon, produite au nucléaire, produite à l'huile lourde. Ouais. Tu parlais du coût de l'essence. On est à 2,69 le gallon américain à Détroit. Fait que divise par 3,78. Mettons, fais ça vite à 4, là, ça te fait 65, 66 sous le litre. Alors, à ce prix-là, on n'est pas prêt d'aller acheter dans l'électrique.
Je voyais, entre autres, Ram, qui a été prisé là, cette année, d'ailleurs, parmi les véhicules qui ont été honorés pour la dernière année, présente un nouveau modèle. Là, ça va faire rager, c'est sûr, les défenseurs de l'environnement, mais ça en est une grosse bête là, qu'ils ont mis sur le marché.
Ah oui, ben, en fait, c'est les camions HD qui sont des camions extrêmement populaires aux États-Unis. Et là, la guerre de ces véhicules-là, c'est toujours à savoir qui va tirer le plus lourd. Qui va avoir la capacité de chargement la plus élevée. Puis là, ben à ce petit jeu-là, Ram vient de fixer la barre assez élevée. Parce que là, on parle d'une capacité de remorquage de 35 000 livres. Puis on parle d'une capacité de chargement de 3 500 kilos.
Pour un trois-quarts de tonne. Pour un demi-tonne, excuse-moi.
Pour un trois-quarts de tonne.
Pour un trois-quarts de tonne.
HD, là. Non, okay. c'est le plus gros, en fait. Plus gros que ça, on tombe dans des véhicules commerciaux. Là. C'est les derniers véhicules que tu as besoin d'un permis régulier. Si tu tombes dans du 450 ou du 550 comme on a chez Ford, là on tombe dans des véhicules commerciaux, tu as besoin d'un autre permis. Mais là, avec ce véhicule-là, c'est un véhicule avec un permis ordinaire. puis on peut traîner avec 35 000 livres, là, ça commence à être pesant.
Là, c'est pas mal.
On peut traîner lourd, là. Tu sais, les gens qui ont des chevaux, là, tu peux traîner 4 chevaux, la remorque avec tout ça, sans problème, là. Puis tu peux traîner une roulotte de 45 pieds.
Oh, oui, effectivement, je te confirme que tu peux mettre 4 chevaux, rien qu'en masse là-dedans, sans problème, puis la remorque, puis c'est... probablement une partie de ta maison.
Ouais, c'est ça, exactement.
Mais donc, ils ont présenté ça, mais le marché, là, ils vont s'attaquer, c'est leur concurrent, c'est quoi? C'est le F-250 dans le 350?
F-50, F-350 et les camions HD du côté de Chevrolet. Il y a juste les Américains. Là, rendus à ce niveau-là de compétences et de professionnalisme, on vit les Américains. Il y a Nissan qui a un Titan XD qui se situe à peu près à mi-chemin. C'est-à-dire qu'il peut faire du travail un peu plus lourd qu'un modèle demi-tonne conventionnel, mais pas aussi lourd qu'une tonne comme ces véhicules-là. Fait que t'es quelque part à mi-chemin. Donc, c'est vraiment une chasse gardée et c'est une catégorie de véhicules extrêmement payante. Donc, les Américains abandonneront pas ce marché-là parce que pour eux autres, c'est vraiment, là, c'est une machine à imprimer de l'argent, là. Les profits sont assez bons là-dessus, puis on en vend, là, des centaines de milliers de chacune des compagnies par année, là. Donc, pour eux, là, c'est un marché extrêmement profitable.
Est-ce que le marché de Ford est attaquable? Parce qu'ils ont été longtemps ceux qui ont été le plus vendus. Chevrolet a eu des très bonnes réputations depuis aux alentours de 2008-2009 sur les changements de modèles.
Depuis qu'ils ont le Duramax avec la transmission Allison, là, on a gagné beaucoup de terrain du côté de GM. Et là, Ram, avec le nouveau Ram dans le modèle 1500, a pris aussi une bonne part de marché, puis on espère que ce momentum-là va se poursuivre avec le modèle qu'on a présenté aujourd'hui. Puis c'est un peu pour ça qu'on a amené la capacité de remorquage à 35 000 livres, qu'on a mis 1000 livres pieds de couple. On s'est dit, OK, on joue encore dans les chiffres et le plus gros de l'emporte. Alors, on a décidé d'aller au-dessus de la concurrence. Faudra voir ce que ça va donner dans les prochains mois.
Benoît Charrette, on peut te suivre par Facebook, entre autres?
Oui, sur ma page web, benoîtcharrette.com aussi. Tous les jours, il y a du matériel là-dessus. Puis j'ai fait un résumé de 7-8 présentations que j'ai trouvées intéressantes aujourd'hui du côté de Détroit.
Merveilleux. Puis on te suit en fin de semaine. C'est le Salon de l'Auto de Montréal et on sera ensemble d'ailleurs samedi en direct
de
là-bas.
On va être ensemble d'ailleurs en fin de semaine directement du Salon de l'Auto à Montréal. On va être là jeudi pour la journée de presse.
Merci beaucoup. Salut.
Merci Mathieu. Bye-bye.
Benoît Charrette était avec nous en direct du Salon de l'Auto de Détroit. 18h19, dans quelques minutes, on parle avec Richard Goudreau, qui est le producteur de Demain des Hommes. Cette série donc que Radio-Canada a décidé de ne pas renouveler pour une nouvelle saison. Et on a eu des explications. Catherine Beauchamp, vous l'avez entendu aux accros tout à l'heure, a parlé avec Radio-Canada sur la question. On lui parle dans les prochaines minutes.